On va retrouver Raphaël Jérusalmi, ancien officier du renseignement militaire de Tsahal. Et il revient avec vous, Lise, sur le fait qu'un deal sur les otages pourrait-il voir le jour cette semaine. Je vous laisse en sa compagnie.
Raphaël Jérusalmi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors Raphaël, on entend beaucoup de bruit sur les négociations pour la libération des otages, notamment par les chaînes d'infos saoudiennes. C'est vrai qu'on a déjà eu plusieurs fois des tas de rumeurs, mais là, ce qui fait dire peut-être que c'est un peu plus sérieux, c'est peut-être que Benjamin Netanyahu et Joe Biden se sont entretenus hier soir, et puis aussi qu'il y ait à la fois à Doha, au Qatar, le chef du Mossad, le chef du Shin Bet et le général Nitzan Alon. Est-ce que vous y croyez, Raphaël Jérusalmi?
À cela, j'ajouterai une pression de l'administration Trump sur Benjamin Netanyahu également de parvenir à un accord, quel qu'il soit, avant le 20 janvier. Et la visite à Doha, avec les autres personnalités que vous venez de mentionner, d'un très haut responsable palestinien en charge de la liste des détenus palestiniens que le Hamas demande à libérer, qui lui aussi donc s'est déplacé, c'est un ancien premier ministre de l'autorité palestinienne, qui s'est donc déplacé aussi donc aujourd'hui au Qatar. Donc les choses ont l'air de bouger, c'est certain. Est-ce qu'il bouge suffisamment pour parvenir à un accord avant le 20 janvier? C'est difficile à dire. Il y a encore quelques désagréments, assez importants d'ailleurs, mais qui pourraient effectivement être surmontés. Et il y a ici une possibilité, à mon avis, de la dernière chance de libérer les otages vivants, en tous les cas.
Alors, ce qui est vrai qui est compliqué pour démêler en fait ce qui se passe là-dessus, c'est que on entend parfois un cessez-le-feu de 42 jours, parfois une première étape avec 20 personnes libérées, 7 personnes libérées, 34 personnes libérées. On sait vraiment plus qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas là-dedans. Ce qui a l'air d'être important également, Raphaël, c'est la demande d'Israël de récupérer les corps et des deux soldats qui ont été tués à Gaza il y a plus de 10 ans déjà pendant l'opération Hadar Bordure Protectrice, Hadar Goldin et Oron Shaul, et puis les deux civils qui sont également retenus en otage dans la bande de Gaza depuis lors.
Oui, avec, si j'ose le dire, quand même une distinction entre les morts et les vivants, avec toute l'importance qu'il y a à rapatrier les corps de soldats et d'otages décédés pour les familles et pour qu'ils puissent les inhumer. Il y a quand même une priorité accordée à ceux qui sont encore vivants. Je pense qu'il faudrait séparer les deux sujets, les séparer d'autant plus que le Hamas ne le fait pas et fournit des listes sans préciser, profitant d'ailleurs de cette conception israélienne de ne pas faire la différence. Eh bien, le Hamas en profite et effectivement n'indique pas dans les listes quels otages sont vivants et lesquels ne le sont pas. Le second point qui est un point faible dans cet arrangement, c'est qu'il se fait par phase et donc tout peut cafouiller entre une phase et une autre. Et donc tous les otages qui seront libérés maintenant le seront aux dépens des otages qui ne le sont pas et qui pourraient être coincés pour beaucoup plus longtemps encore. Il y a un problème entre les phases, les différentes phases, qui, comme vous le dites, sont un petit peu trop compliquées pour que ça marche. Quand ça marche, il faut que ça soit simple, et ça ne l'est pas du tout, avec des possibilités d'infraction de part et d'autre, un manque de garantie véritablement sérieuse. Quelle garantie, d'ailleurs, peut-on avoir de la part du Hamas, qui est une faction sans foi ni loi terroriste? Il y a beaucoup de points faibles. D'un autre côté, nous n'avons plus le choix. Israël n'a plus le choix. Elle doit payer le prix, et le prix fort, pour libérer les otages. Il n'y a aucune possibilité d'échapper à cette responsabilité de les sauver.
C'est pour ça d'ailleurs, Raphaël, que le Forum des familles réclame une libération de tous les otages d'un coup et non pas des phases, mais ça n'a pas l'air d'être ce qui est possible de négocier avec le Hamas. Alors, un des responsables palestiniens qui s'est exprimé ce week-end parlait d'un échange contre plus de 3000 prisonniers palestiniens, dont des détenus qui avaient d'abord été libérés lors de l'accord pour Gilad Shalit et réincarcérés depuis, des gens, des terroristes condamnés à perpétuité. Est-ce que c'est acceptable, ça, Raphaël Jérusalem, de la part du public israélien, quand on sait ce qui s'est passé sur l'accord Shalit?
Comme je l'ai dit, le prix à payer va être lourd, il va falloir le payer. On parle à peu près d'une trentaine de terroristes par otage dans la première phase, et comme c'est une phase d'une trentaine d'otages, on parle de 1000 terroristes. Dans la seconde phase, où il y aurait une cinquantaine de ce que le Hamas définis comme soldats, c'est-à-dire des gens qui sont au moins de 50 ans, on libérerait 50 détenus palestiniens par otage, et on atteindrait donc 2000. Effectivement, ça fait 3000. Ils sont obligés de le faire. Il y a un problème, c'est que ceux qui vont être libérés, certains ont déjà été repris après avoir été libérés en échange d'un soldat israélien du nom de Gilad Shalit, et que le Hamas exige qu'ils soient graciés, c'est-à-dire non seulement ces terroristes seront libérés, mais si jamais ils étaient encore rattrapés, s'ils récidivaient une fois de plus, on ne pourrait pas les juger de nouveau et leur faire payer le prix des crimes qu'ils ont déjà commis par le passé. Une des possibilités, si ce chiffre est inacceptable, c'est l'extradition, c'est-à-dire libérer, oui, mais pas libérer vers Gaza ou la Judée-Samarie, mais vers un pays étranger et lointain du Proche-Orient si possible. Les éloigner le plus possible donc d'Israël. Comme je le dis, c'est le prix à payer, mais n'oublions pas que pour les plus importants, je pense que le Mossad et le Shin Bet peuvent avoir leur peau un peu plus tard, d'ici un an, d'ici deux ans, les éliminer le cas échéant ou les refaire prisonniers. Nous n'avons pas le choix, je le dis, c'est un prix exorbitant à payer, mais nous n'avons absolument pas le choix face à cette... ce problème des otages. Si nous n'avions pas d'otages, nous aurions les mains libres pour en finir avec la menace du Hamas. Ce n'est pas le cas pour l'instant.
Alors, ma dernière question, justement, Raphaël. Visiblement, le vice-président de Donald Trump, qui doit entrer en fonction la semaine prochaine, le 20 janvier, expliquait les menaces de Trump sur quand il avait dit que l'enfer allait s'abattre sur le Moyen-Orient si les otages n'étaient pas libérés. Et ce plan de Trump, il s'articule autour de deux axes majeurs. Autoriser Tsahal à éliminer les dernières divisions du Hamas à Gaza, et ça c'est la première fois qu'on entend les États-Unis dire cela, et l'instauration d'un régime de sanctions qui vise les organisations qui soutiennent le terrorisme au Moyen-Orient. Est-ce que ça aussi, ça joue beaucoup dans ces négociations, le fait que Trump ait l'air de vouloir durcir encore le ton par rapport au Hamas?
Oui, mais c'est un petit peu dommage qu'il dévoile ses cartes, parce que dans les négociations, eh bien, le Hamas va demander en plus, donc revendiquer en plus qu'on touche pas à ses intérêts financiers à l'étranger. On parle de milliards de dollars, hein, c'est pas 2 francs, 2 sous, des milliards de dollars que dont le Hamas dispose à l'étranger, inclut des fortunes personnelles des hauts dirigeants du Hamas, et c'est effectivement un endroit faible, mou. Où l'administration américaine pourrait effectivement causer des problèmes au Hamas. Et comme je l'ai dit, il faudrait ne pas en parler et juste le faire. Je ne vois pas pourquoi ça n'a pas été fait jusqu'à présent. D'ailleurs, c'est absolument scandaleux. Quant à supprimer ce qui reste du Hamas, ce que les Américains nous l'autorisent ou pas, nous n'attendons certainement pas leur autorisation pour le faire. Le but est effectivement de tuer le plus possible de terroristes. Vous voyez que ça vaut pas coup de les faire prisonniers. Les faire prisonniers, c'est pour juste avoir à les libérer plus tard pour un accord ou un autre. Donc, il vaut mieux les éliminer carrément. Pas de quartier.
Merci beaucoup, Raphaël Jérusalem, ancien officier des renseignements militaires, d'avoir été avec nous ce matin pour parler de ce sujet des otages. Bonne journée, à très bientôt.